Laudetur Jesus Christus.
C'est une ressource vitale pour la région. Dans son appel pour la traditionnelle collecte pour la Terre Sainte du Vendredi Saint, le préfet du Dicaster pour les églises orientales revient sur l'importance de faire renaître la vie sur place. Nous y revenons juste après les titres. Dans ce journal, nous irons également au Mexique. La population se mobilise après la découverte de camps d'extermination gérés par des cartels. Et puis en Haïti, plongé dans une nouvelle vague de violence et déjà la fin des financements américains pour certaines ONG, renforce les difficultés de la population, notamment dans les camps de personnes déplacées.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour à toutes et à tous. À un mois de la commémoration de la Passion du Christ, Vendredi Saint, le Saint-Siège mobilise ce lundi les évêques du monde entier pour aider la Terre Sainte. Dans son appel en faveur de la traditionnelle collecte du Vendredi Saint, qui lui est entièrement dévolue depuis 50 ans, le cardinal Guggerotti, en charge au Vatican des églises orientales, invite tous les diocèses à faire de cette quête une priorité pastorale. Car les plaies à penser sont nombreuses, la terre natale du Christ n'a pas été épargné par les douleurs depuis 5 ans, Olivier Bonnel.
Oui, à peine remise de la paralysie de la pandémie et son coup d'arrêt au pèlerinage, le berceau originel du christianisme a basculé dans les affres de la guerre il y a près de 18 mois et sa survie est désormais menacée par l'exil ou l'asphyxie économique. Toutes ces difficultés confèrent bien sûr à cette collecte pour la Terre Sainte une importance vitale cette année, elle qui est née de la volonté du siège apostolique de maintenir un lien fort entre les chrétiens du monde entier et les lieux saints. Le préfet du Dicaster pour les églises orientales parle de priorité pastorale pour tous les diocèses dont les évêques doivent, dit-il, se faire des apôtres persuasifs. Il s'agit d'aider à faire renaître la vie sur place, quel qu'en soit le moyen ou le soutien offert, paroisses, écoles, hôpitaux, centres de réfugiés, soutenir la formation des prêtres ou des religieux pour contribuer à la préservation des lieux saints. Les enfants en particulier ont le droit de vivre en paix sans avoir la peur de revoir le sourire satanique de la mort, écrit le cardinal Guggerotti, qui était en Syrie il y a encore quelques semaines. Ce don généreux, Marine, est sans nul doute un instrument de paix que Dieu n'oubliera pas en cette année jubilaire de l'espérance. Il ne concerne pas qu'Israël ou la Palestine, mais bien toutes les contrées des Écritures où l'histoire du salut fut comptée, comme la Turquie, l'Éthiopie ou encore l'Iran et l'Irak.
Merci Olivier Bonnel. Et à noter que le thème pour les prédications de la maison pontificale des quatre vendredis précédents la semaine sainte a été révélé aujourd'hui et il sera ancré dans le Christ, enraciné et fondé dans l'espérance de la vie nouvelle, des prédications proposées par le père Roberto Pasolini. C'est un coup de tonnerre diplomatique. Le Rwanda annonce la rupture de ses relations avec la Belgique. Une décision liée, selon Kigali, aux tentatives pitoyables de Bruxelles de maintenir ses illusions néocoloniales, je cite. La Belgique dit de son côté regretter cette décision disproportionnée, dit-elle, du Rwanda, et va à son tour déclarer persona non grata les diplomates rwandais en poste sur son sol. En Israël, Benjamin Netanyahou annonçait hier soir mettre fin aux fonctions du chef du Shin Bet, le service de renseignement intérieur du pays, alors que celui-ci enquêtait sur les liens entre le bureau du Premier ministre et le Qatar. Mais pour justifier cette décision, Benjamin Netanyahou a mis en avant un manque de confiance. La décision est maintenant décriée par l'opposition et la procureure générale. Les précisions à Tel Aviv de Julia Ganancia.
Ronen Bar avait annoncé un départ anticipé en raison de sa responsabilité dans le fiasco du 7 octobre 2023. Le chef du Shin Bet ne prévoyait alors sans doute pas que le Premier ministre israélien le limogerait avant. Benjamin Netanyahou a motivé cette décision dimanche en raison, je cite, d'un manque de confiance. En Israël, l'annonce n'a pas créé la surprise, tant les relations entre les deux hommes avaient empiré ces derniers temps. En cause, une enquête par le Shin Bet sur deux proches collaborateurs de Netanyahou soupçonnés d'avoir reçu des fonds du Qatar. De son côté, le porte-parole du renseignement intérieur a pris soin de préciser que celui-ci respecterait la loi en se conformant aux résultats du vote sur son limogeage. Les opposants à Netanyahou considèrent le renvoi de Ronen Bar comme un moyen pour le chef du gouvernement de mettre un terme à ses investigations. C'est d'ailleurs cette même enquête qui pourrait constituer une entrave juridique à ce limogeage s'il est déterminé qu'elle entraîne un conflit d'intérêts. À Tel Aviv, Julia Ganancia pour Radio Vatican.
Aux États-Unis, au moins 40 personnes sont mortes dans de violentes tempêtes et tornades ce week-end dans les États du Sud et du Centre, notamment dans le Missouri, où une tempête a laissé derrière elle un paysage de désolation avec des bâtiments complètement détruits, des camions renversés sur les routes et des arbres déracinés. Direction maintenant le Mexique. Plusieurs manifestations ont eu lieu ce week-end après que des collectifs de chercheurs de disparus aient découvert des camps d'extermination utilisés par les cartels. Les explications à Mexico de Diego Calmar.
Des fosses et des crématoriums dans un ranch qui servait de camp d'extermination pour un cartel mexicain. Ce camp a été découvert près de Guadalajara, deuxième ville du pays, au centre du Mexique. Ce sont les collectifs de chercheurs de disparus qui ont donné l'alerte. Une découverte macabre qui braque les projecteurs sur cette crise humanitaire que vit le Mexique. 120 000 personnes sont portées disparues, la majorité enlevée par le crime organisé. Dans ce cas, il s'agissait d'un camp d'entraînement du cartel Jalisco Nouvelle Génération, le plus sanguinaire du pays. Il aurait servi de lieu de rite d'initiation où les personnes séquestrées sont recrutées, puis finalement tuées après avoir été utilisées dans l'économie du crime organisé. Il apparaît que le parquet et les autorités locales de l'État du Jalisco étaient au courant, mais n'ont pas enquêté davantage, laissant la charge aux mères de disparus. Ce samedi et ce dimanche, des milliers de manifestants se sont réunis un peu partout dans le pays, plaçant des paires de chaussures sur les places centrales de ces villes. Une référence à la photo des centaines de chaussures et de baskets retrouvées dans le ranch. L'État est quasi démissionnaire dans cette crise des disparus dans laquelle est plongé le pays. À Mexico, Diego Calmar. Pour Radio Vatican.
Et dans un communiqué après la découverte de ces camps de l'horreur, l'Église mexicaine parle de l'une des expressions les plus cruelles du mal et de la misère dont nous ayons été témoins dans notre pays. Un communiqué à retrouver sur notre site internet vaticannews.va. En Haïti, les médias n'échappent pas à la spirale de violence. Hier soir, une chaîne de télévision haïtienne a annoncé avoir été attaquée et pillée. Cela arrive quelques jours après le braquage des locaux des Radio Mélodie FM et Radio Télévision Caraïbes. Cette dernière est la plus vieille station du pays. Elle a été incendiée. Ces dernières semaines, une nouvelle flambée de violence s'est emparée de la capitale Port-au-Prince, contrôlée à 85% par les groupes armés. La situation humanitaire y est très difficile et le contexte mondial n'est pas en faveur d'une amélioration. Au contraire, les suspensions de financements américains impactent déjà concrètement la vie des habitants et des ONG, comme nous l'explique Christophe Garnier, chef de mission pour MSF en Haïti.
C'est catastrophique globalement. MSF, nous ne sommes pas financés par USAID. Mais ce qui est évident, c'est que la situation des déplacés, par exemple, où on estime à environ 180 000 personnes aujourd'hui déplacées vivant dans des camps de fortune à Port-au-Prince, pour lesquels des ONG fournissaient ne serait-ce que de l'eau ou avaient prévu de vider des latrines, de construire de nouvelles latrines, ben ce sont ces ONG qui n'ont plus les fonds et donc qui ne sont plus en capacité de fournir de l'eau de service ou même de l'eau de boisson à ces personnes dans les camps. Il est évident que, étant partenaire du milieu humanitaire en Haïti, on va avoir des conséquences indirectes, c'est à savoir plus de pression sur nos hôpitaux, mais également plus de demandes de faire à la place, etc. Évidemment, la situation sanitaire va aller se dégradant toujours un peu plus. Faire plus au niveau médical, ça veut dire aussi plus d'approvisionnement. Et comme vous savez, l'aéroport est fermé, donc même l'approvisionnement en intrants, en médicaments est extrêmement compliqué. Mais ça veut dire aussi plus de personnel médical. Il y a une fuite également des compétences d'Haïti, donc c'est aussi extrêmement compliqué. Plus de personnel international, comme on est dans une situation particulièrement tendue, c'est compliqué.
Des propos recueillis par Jean-Benoît Harel. Une autre conséquence du retrait américain des institutions internationales, l'OMS annonce ce midi que si elle ne trouve pas de fonds alternatifs, elle devra fermer, et cela d'ici le mois de juin, 80% de ses services de soins essentiels en Afghanistan, sachant que le système de santé du pays ne tient que grâce au soutien des bailleurs internationaux. Avant de se quitter, quelques mots sur la santé du pape François. Il continue la thérapie respiratoire et motrice. L'état est stable et va vers le mieux. La preuve en est une photo partagée hier soir, la première depuis le début de son hospitalisation. C'était le 14 février. On voit le pape François de dos, dans un fauteuil roulant, devant l'autel de la chapelle du Gemelli. Et hier, dans le texte écrit pour l'Angélus, le pape François reconnaissait traverser un temps d'épreuve. Mais un corps fragile n'empêche pas d'être pour son prochain un signe lumineux d'espérance, écrit. Merci de votre écoute. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne après-midi. L'information revient en direct ce soir à 18h.